façon générale, tout de vue, qu'est-ce que d'où vient ce qu'on sait sur les patrimoines? Alors, une première source qui est assez importante, ça va être les montants totaux qui sont publiés par les instituts statistiques dans le cadre de la comptabilité nationale. Alors, en général, qui sont plutôt bien mesurés, en particulier pour ce qui est des actifs financiers, on a vraiment des sources très directes. Donc ça, c'est une source d'information importante, mais qui ne nous informe pas directement sur la façon dont ce patrimoine est distribué. C'est uniquement sur les montants totaux. Ensuite, sur la distribution, d'une part, on va avoir des enquêtes auprès des ménages, et puis ensuite, on va avoir diverses sources administratives. Et puis une dernière source qui est un peu atypique et aussi assez problématique, mais qui est quand même des enseignements intéressants parfois, ça va être les différents classements de fortune qui existent, sont généralement publiés par la presse et qui cherchent à faire un recensement finalement des plus grandes fortunes dans le monde et dans d'autres pays. Alors, donc, je vais pas trop m'attarder sur le premier point, qui est que ce soit le montant totaux, ce qui n'est pas directement lié à l'inégalité. Je vais directement passer à la question des enquêtes. Donc, les enquêtes de patrimoine, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès au cours de la dernière décennie sur la quantité de données, enfin, les nombres d'enquêtes qui ont été réalisées sur les patrimoines. Pendant très longtemps, c'était quelque chose qui était un peu ignoré. Et par des enquêtes, on avait beaucoup d'enquêtes sur le revenu ou même sur la consommation, assez peu sur le patrimoine. Il y a eu beaucoup de progrès récents, notamment en Europe, où depuis l'année 2010, vous avez la Banque Centrale Européenne qui a commencé à faire vraiment un effort de mettre en place une enquête pour la plupart des pays européens dans un cadre harmonisé, etc. Mais ça reste le cas que c'est des enquêtes qui sont moins répandues, réalisées de façon moins fréquente que d'autres types d'enquêtes, comme l'enquête sur l'emploi ou l'enquête sur le revenu. En pratique, quand on regarde ces enquêtes, ce qui est très clair, c'est qu'elles ne permettent pas de couvrir la totalité des montants totaux qui sont calculés par ailleurs dans la comptabilité nationale. Ce n'est pas inhabituel, par exemple, pour ces enquêtes, en pratique, de ne couvrir que la moitié des actifs financiers tels qu'on les mesure par ailleurs. Simultanément, elles vont avoir tendance à beaucoup mieux couvrir d'autres types d'actifs comme l'immobilier. Or, on sait que typiquement, les actifs financiers sont des actifs qui sont répartis de façon très très inégale, alors que l'immobilier est réparti de façon plus égalitaire. Donc, forcément, le fait d'avoir ces divergences, ça va sans doute un peu biaiser l'inégalité, au sens où ça va la sous-estimer. En fait, pour ça, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a ces problèmes-là. Notamment, en fait, clairement, un des problèmes avec les enquêtes de patrimoine, c'est qu'on a des tas d'échantillons qui sont généralement relativement limités. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'ordre peut-être d'une dizaine de milliers d'individus dans l'enquête. Et ça peut poser problème par rapport au fait que les patrimoines sont toujours quelque chose de très, très concentré. Et donc, quand on va faire une enquête où on va interroger au hasard plusieurs milliers de personnes dans la population, le fait d'avoir une petite fraction de la population qui possède une très très grande partie du patrimoine, ça va être difficile d'atteindre cette partie de la population à partir d'enquêtes seules. Alors, il y a des méthodes statistiques, type ce qu'on appelle de surpondération. On va essayer d'interroger davantage les gens qu'on soupçonne qui sont plus riches par avance pour essayer de contourner ça. Mais bon, ça. Et effectivement, il y a des pays qui le font bien, notamment la France, l'Espagne. Ce qui ne permet pas de corriger tous les problèmes non plus, mais peut aussi du coup créer des problèmes de comparabilité entre les enquêtes d'un pays à l'autre. Vous avez des pays où on va finalement réussir quand même à capturer relativement bien dans l'enquête les très hauts patrimoines, d'autres où ça va être beaucoup plus difficile et du coup la comparaison des niveaux d'inégalité peut poser problème. Donc l'autre source en général sur laquelle on se tourne pour contourner ces problèmes avec les enquêtes, ça va être les sources administratives, en particulier les sources fiscales. Alors pour le revenu, c'est assez simple, parce que généralement le revenu est taxé directement. Alors il y a quand même quelques soucis qu'il faut prendre en compte, parce que le revenu taxable, ce n'est pas forcément le concept de revenu qui nous intéresse le plus, mais on est quand même assez proche d'un concept de revenu clair, dans les données fiscales directes. Les données sur le patrimoine, c'est beaucoup moins facile, parce que La première chose qu'on voudrait avoir, ça serait un impôt sur le patrimoine pour mesurer ça. En pratique, les impôts patrimoine sur le patrimoine, ils sont rares et même de plus en plus rares. Même quand ils existent, souvent, ils ont fait l'objet de beaucoup d'exemptions. C'est-à-dire que l'ISF en France, à l'époque où il existait, il y avait beaucoup d'exemptions, notamment pour le patrimoine professionnel, qui font que ce n'est pas forcément évident d'exploiter ces sources de façon directe pour mesurer l'inégalité. Et donc, pour cette raison, quand on utilise des sources administratives pour le patrimoine, on va plutôt se tourner vers des sources indirectes. Alors, la première de ces sources, ça va être l'impôt sur les successions. Et qu'on va associer à la méthode dite de l'estate multiplier, où en gros, on va mesurer en fait le patrimoine des individus au moment de leur mort, c'est-à-dire au moment où ils sont taxés par l'impôt sur les héritages. Et ensuite, on va prendre cet échantillon, on va redresser pour prendre en compte le fait que, bien entendu, la distribution en termes d'âge des gens qui décèdent n'est pas représentative du reste de la population. C'est ça qu'on peut redresser sur la base des taux de mortalité. Et à partir de ça, on va créer une estimation qui s'applique à toute la population. Alors ça, le problème de cette approche, c'est qu'elle implique de supposer que la mort est un phénomène vraiment imprévisible et indépendant du niveau de richesse. Et en ça, on sait que ce n'est pas le cas, que typiquement les gens plus riches ont tendance à avoir des taux de mortalité plus faibles. Et à cause de ça, c'est une méthode dont on soupçonne qu'elle sous-estime plutôt le véritable niveau d'inégalité. En pratique aussi, il y a des pays, beaucoup de pays où en fait les droits de succession sont trop limités pour être vraiment exploitables. Aux États-Unis, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur l'héritage si vous avez un patrimoine de moins de 20 millions. Donc, clairement, ça va être difficile d'avoir des estimations très solides à partir de ce type de données. Donc, l'autre approche, elle consiste à utiliser les impôts sur le revenu du capital, donc sur les revenus que le patrimoine génère. Donc, on va regarder les données fiscales sur le revenu, isoler les revenus du capital, ramener finalement ces revenus du capital aux montants totaux qui sont calculés par les comptables nationaux. Et à partir de là, on va supposer en fait un taux de rendement, que le taux de rendement est le même pour le taux de rendement était le même pour un actif donné. Et à partir de là, on va reconstruire une distribution des patrimoines. Alors ça implique de supposer que le taux de rendement par actif ne varie pas, ou au moins pas trop, avec le niveau de revenu. Alors qu'en pratique, on soupçonne quand même que les taux de rendement ont tendance à être plus élevés pour les gens plus riches. Et si c'est effectivement le cas, il y a un risque de surestimation de l'inégalité des patrimoines. Encore une fois, il y a aussi des problèmes avec les données, où il y a certaines réformes de la taxation du capital, qui fait qu'on n'observe plus directement les revenus du capital dans les revenus fiscaux et qui rendent encore une fois difficile d'appliquer cette méthode. Et puis troisième, dernière source un peu atypique mais qui est parfois utile, ça va être les classements de type Forbes ou Challenge qui sont vraiment des recensements des individus ou des familles qui sont les plus riches. Alors, c'est des classements qui, du point de vue recherche, posent pas mal de problèmes. Il y a clairement une certaine opacité méthodologique derrière ça. Il n'y a pas quelque chose de très systématique parce que c'est vraiment un travail d'enquête au cas par cas. Ça pose beaucoup de questions en termes de cohérence, concept de patrimoine qui est utilisé, de l'unité statistique qui est utilisée. En général, c'est des classements qui ont tendance, au cours de la décennie, à montrer des hausses très 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 fortes des patrimoines tout en haut de la distribution. Souvent d'ailleurs beaucoup plus forte que ce qu'on observe avec toutes les différentes autres méthodes. En quelle mesure c'est exploitable, c'est vraiment une question qui est encore ouverte en termes de recherche, mais que ça a quand même des enseignements intéressants qui peuvent être tirés de ces données. Donc concrètement, on a toutes ces différentes méthodes pour mesurer les patrimoines qui peuvent parfois donner des résultats un peu divergents. Donc la question c'est comment est-ce qu'il faudrait avancer à partir de là? Clairement, à terme, ce qui serait optimal, c'est qu'on mette en place finalement un système de mesure, système statistique de mesure des paniers de patrimoine et d'ailleurs aussi de revenus, qui soit basé principalement sur les sources administratives les plus directes possibles, un peu sur le modèle de la comptabilité nationale. Donc, c'est clairement un projet que devrait idéalement être pris en charge par les gouvernements et les instituts statistiques, qui sont les seuls à avoir vraiment les moyens de mener ce projet de façon soutenable. En attendant, on fait ce qu'on peut avec les sources qu'on a à notre disposition. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de voir ces différents les résultats donnent ces différentes méthodes et d'aller vraiment chercher un peu la convergence des preuves, où est-ce que ça nous amène. Et en pratique, on arrive quand même pas trop mal. On voit qu'on arrive relativement bien à réconcilier, dans beaucoup de cas, les divergences qu'on peut observer. Aux États-Unis, par exemple, on sait que la méthode donc, dite de l'estate multiplier, qui se base sur les impôts sur la succession, tend à donner des résultats qui sont un peu aberrants par rapport aux autres méthodes, mais que pas, hormis celle-là, on a quand même une convergence assez claire. Pareil pour la France, où finalement les différentes méthodes donnent quand même des résultats qui sont assez proches quantitativement. Et donc on voit bien, par exemple, assez clairement établi à ce stade qu'aux États-Unis, vous avez une hausse des inégalités de patrimoine beaucoup plus élevée que ce que vous avez, que ce qu'on a eu en France.